VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 17 mars 2023, en direct de Washington, Idrissa Seloudia pour commencer les titres. Au Sénégal, heure à Dakar, pendant la comparution hier de l'opposant Ousmane Sonko au palais de justice. Le Mali reçoit de nouveaux appareils de guerre de la Russie et de la Turquie. Washington apporte son soutien au Niger, pays stable dans un Sahel en crise, à l'occasion de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le cyclone Freddy, dernier bilan provisoire, a fait plus de 400 morts en Afrique australe, le Malawi meurtri. Coup de tonnerre en France, le président Emmanuel Macron engage la responsabilité de son gouvernement pour faire passer sans vote à l'Assemblée son projet sur les retraites. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Sénégal, des quartiers de la capitale Dakar ont été jeudi le théâtre de scènes de guérilla entre jeunes Sénégalais et forces de l'ordre pendant la comparution de l'opposant Ousmane Sonko dans un procès dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle de 2024. Aucun bilan humain ou matériel de ces incidents n'a été rapporté. Le point avec Jean-Roger Bion.
Des groupes mobiles de jeunes ont lancé des pierres sur les gendarmes et les policiers dans les rues adjacentes au tribunal où M. Sonko était convoqué pour répondre de diffamation contre le ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang. Son trajet jusqu'au tribunal sous forte escorte policière à travers une ville en état d'alerte a été émaillé de troubles. Les forces de sécurité ont fini par l'extraire de sa voiture pour le transférer de manière musclée dans un véhicule blindé et le conduire au palais de justice. « J'ai été brutalisé. Le régime ne compte que sur les forces de sécurité », a dit Ousmane Sonko une fois à la barre. Ceux qui l'accompagnaient accusent les forces de sécurité de les avoir aspergés de lacrymogènes pour les extirper de la voiture. Monsieur Sonko a expliqué avoir voulu choisir son itinéraire et craindre pour sa vie sur celui choisi par la police. Il s'est fait ausculter par un médecin au tribunal. L'une des interruptions et multiples incidents de cette audience sous haute tension. Le procès a finalement été renvoyé au 30 mars et a dégénéré en pugilat à la sortie de la salle entre membres de l'entourage des deux parties.
Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remis officiellement hier des aéronefs à l'armée de l'air. Il s'agit d'avions russes et de drones turcs. C'était au pavillon présidentiel de l'aéroport international, président Modibo Keïta. Davantage de détails avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
Les autorités de la transition malienne viennent de faire une nouvelle acquisition de drones et d'avions de combat de type Albatros L-39. Une acquisition qui vient s'ajouter à d'autres équipements de transport et de combat. Sur la page Facebook de la présidence de la République, on peut lire que cette acquisition participe à l'amélioration de la puissance de frappe, mais aussi à l'efficacité de l'outil de renseignement des forces armées. Pour le chef d'état-major général de l'armée de l'air, le général de division Alouboy Diara, avec ses équipements, le harcèlement des terroristes ne durera pas longtemps, car ils seront, selon lui, traqués jusque dans leur dernier retranchement. Une démonstration des Albatros L-39 a mis fin à cette cérémonie par une minute de silence en la mémoire des militaires et civils disparus depuis le début de la crise. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est venu hier apporter son soutien au Niger, un pays stable dans une région en proie à la violence djihadiste et où la Russie marque des points, Jacques Aristide.
À l'issue d'un tête-à-tête avec le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, Anthony Blinken a fait part d'une nouvelle aide humanitaire à la région du Sahel, dont le Niger, d'un montant de 150 millions de dollars, ce qui porte le total de cette aide à 233 millions de dollars pour 2023. Le Niger a été rapide dans la défense des valeurs démocratiques menacées dans des pays voisins, a déclaré le patron de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse en référence au Mali et au Burkina Faso dirigés par des militaires putschistes. Avant de s'entretenir avec le président Bazoum, Anthony Blinken a rencontré des djihadistes repentis qui bénéficient d'un programme de réinsertion financé à hauteur de 20 millions de dollars par les États-Unis. Ce programme est sur le le point d'offrir à ces anciens djihadistes un meilleur choix et de notre point de vue, c'est véritablement un modèle pour la région, a-t-il dit. Anthony Blinken est le premier chef de la diplomatie américaine à se rendre au Niger, ancienne colonie française devenue un allié vital et une base militaire clé pour les forces occidentales dans leur lutte contre les groupes djihadistes au Sahel.
En Algérie, le président Ahmed Majid Abdelmajid Tebboune a nommé jeudi un nouveau ministre des Affaires étrangères en remplacement du chevronné Ramtane Lamamra dans le cadre d'un remaniement ministériel qui concerne une dizaine de fauteuils ministériels. Monsieur Lamamra, 71 ans, en poste depuis juin 2021 après un premier passage à la tête de la diplomatie algérienne entre 2013 et 2017, a été remplacé par Ahmed Attaf, qui retrouve à 69 ans un ministère qu'il avait dirigé entre 1996 et 1999, selon la présidence de la République. Monsieur Attaf, un diplomate de carrière, s'est formé à l'École nationale d'administration ENA d'Alger, comme le président Tebboune. Sa nomination survient dans un contexte de vives tensions avec le Maroc voisin, en particulier sur la question du territoire disputé du Sahara occidental. Le cyclone Freddy, à la longévité exceptionnelle, a fait plus de 400 morts en Afrique australe, dont la grande majorité au Malawi, où le bilan s'est encore aggravé jeudi soir, l'espoir de retrouver des survivants devenant de plus en plus minces. Freddy a frappé deux fois en quelques semaines dans la région, tuant sur son passage 73 personnes au Mozambique, 17 à Madagascar et désormais 326 au Malawi, selon un dernier bilan annoncé dans la soirée par le président Lazarus Chakwera. Selon lui, le nombre de déplacés a plus que doublé, dépassant les 183 000 au Malawi. Le cyclone a détruit des biens, des maisons, des récoltes et des infrastructures, y compris des ponts, isolant des communautés désespérément en besoin d'aide, a déploré le président Chakwera, qui a réitéré son appel à l'aide internationale face à une tragédie nationale. L'état de catastrophe et deux semaines de deuil national ont été décrétés. La police et l'armée déployées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président Emmanuel Macron a choisi au dernier moment l'épreuve de force et a engagé jeudi la responsabilité de son gouvernement pour faire passer sans vote à l'Assemblée son projet décrié de réforme des retraites en France, un coup de tonnerre qui pourrait relancer la contestation sociale. J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi, a asséné la première ministre Elisabeth Borne, haussant le ton pour passer au-dessus des huées des députés de l'opposition chauffés à blanc. Les syndicats ont réagi en annonçant une journée de grève jeudi prochain, la deuxième d'une longue série depuis mi-janvier, qui jusqu'ici n'a pas fait plier le gouvernement, dénonçant un déni de démocratie, ils ont appelé à des rassemblements dès ce week-end. L'exécutif a décidé de recourir à un article de la Constitution qui permet de faire passer un projet de loi sans le soumettre au vote en engageant la responsabilité du gouvernement. Entre-temps, les forces de l'ordre françaises ont débloqué hier près de Paris un dépôt occupé par des éboueurs en grève contre la réforme des retraites. Le préfet de police dit vouloir réquisitionner des personnels pour évacuer les poubelles qui s'entassent dans la capitale Yacouba Ouédraogo.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, a refusé mercredi de réquisitionner les agents municipaux. Hier jeudi, les forces de l'ordre sont passées à l'action en débloquant un dépôt de benne à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. À Paris, l'amoncellement des ordures sur les trottoirs continue au 11e jour de la grève des éboueurs de la mairie. Ces derniers refusent le report de 57 à 59 ans, l'âge de leur départ à la retraite. Jeudi, 9400 tonnes de déchets n'ont pas pu être ramassées et les trois incinérateurs situés aux portes de la capitale restaient bloqués par les manifestants. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé qu'il signerait la décision de réquisition d'agents pour permettre d'évacuer la plupart des déchets et faire en sorte qu'un service de collecte puisse se mettre en place. Paris, ville la plus visitée au monde avec 34,5 millions de touristes recensés en 2022, selon les autorités, doit composer avec une grogne sociale liée à une réforme des retraites voulue par le président Emmanuel Macron, à laquelle beaucoup de Français sont hostiles.
En Israël, de nombreux rassemblements ont eu lieu jeudi pour dénoncer la réforme du système judiciaire en cours d'examen au Parlement israélien, au lendemain du rejet par le gouvernement d'un appel présidentiel au compromis sur ce texte qui divise la société. Par son ampleur, la contestation s'impose comme l'un des mouvements de mobilisation populaire les plus importants de l'histoire d'Israël qui fêtera en mai son 75e anniversaire. La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Burkina Faso, la production industrielle d'or, premier produit d'exportation du pays, a reculé de 13,73%, passant à 57,6 tonnes en 2022 contre 66,8 tonnes en 2021 en raison de la fermeture de 5 mines liées au contexte sécuritaire, a rapporté jeudi le ministère en charge des mines et des carrières. Cette baisse a entraîné une diminution des recettes de l'État et des collectivités territoriales. Au moins 2500 employés sont au chômage depuis la fermeture de 5 mines industrielles sur les 17 que compte le Burkina. Le Nigeria retient 743 millions de dollars de revenus qui doivent normalement être perçus par les transporteurs internationaux opérant dans le pays. C'est le montant le plus élevé dû par un pays, a déclaré jeudi un porte-parole de l'Association mondiale des compagnies aériennes. Les gouvernements du monde entier réunis doivent 2,2 milliards de dollars aux compagnies aériennes. Terminons par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a annoncé jeudi une nouvelle aide humanitaire de 157 millions de dollars pour la région du Sahel en Afrique en faveur des réfugiés et autres personnes touchées par le conflit et l'insécurité alimentaire. Le paquet comprend également un financement pour les réfugiés sahéliens en Libye et au Niger.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les playoffs de la Basketball Africa League se rapprochent pour certaines équipes.
Oui, c'est le cas des champions en titre tunisiens de l'US Monastir qui affrontent ce soir les Ivoiriens d'Abidjan Basketball Club. En cas de victoire, l'US Monastir se qualifiera pour les playoffs. La tâche s'annonce difficile pour les Tunisiens car les Ivoiriens ont besoin de gagner pour augmenter leurs chances de voir le tour suivant. Coup d'envoi 16h temps universel. Juste après cette rencontre, à 19h30, on aura droit à un derby ouest africain entre le stade malien de Bamako et l'AS Douane du Sénégal, mal en point dans cette compétition qu'elle accueille. Jusqu'ici, un seul club est sûr de prendre part aux playoffs. Il s'agit du Rwanda Energy Group qui a décroché mercredi sa troisième victoire d'affilée dans la phase de poule de cette conférence Sahara.
Gianni Infantino réélu président de la FIFA.
Un mondial de football à 104 matchs dès 2026, un mondial de clubs à 32, entre autres, l'Italo-Suisse en poste depuis 2016, entend gonfler les compétitions et revenus de la FIFA. On a besoin de plus et pas de moins de compétitions mondiales pour développer le football, a résumé Gianni Infantino, élu lors du 73e congrès de l'instance à Kigali. En quoi les précédents mandats de Gianni Infantino ont-ils profité au continent africain? Élément de réponse avec Amin Birouk, notre consultant sportif à Casablanca.
Le fait d'augmenter au nombre de 48 sélections, ça a poussé proportionnellement. La FIFA a donné plus de présence au football africain. Le continent qui a le plus bénéficié de cet élargissement est l'Afrique. Il y a le projet Forward pour aider les fédérations sportives. Il y a visiblement quelques projets qui sont en cours et qui permettront de former des cadres, de permettre au football africain de passer un nouveau cap en termes de gouvernance. Mais il y a aussi beaucoup de points d'interrogation concernant ce qui s'est passé depuis, je dirais, une sorte de tutelle de la Confédération africaine de football à partir de 2019. Et on n'a toujours pas l'impression que la CAF est sur les bons rails en ce moment. C'est peut-être un des challenges du prochain mandat de Gianni Infantino qui va devoir certainement donner plus de lustre à l'Afrique et surtout plus de rigueur et de sérieux en termes de gestion pour la Confédération africaine de football.
Merci Amin.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, le procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme Mam Mbaye Niang à l'opposant Ousmane Sonko a été renvoyé au 30 mars 2023 en audience spéciale. De nouveaux affrontements ont eu lieu en marge de l'audience d'hier. Lors des heures, les principaux protagonistes déroulent leurs arguments. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagui.
Les avocats peuvent demander jusqu'à 3 renvois. On en était à 2, donc j'ai demandé au juge d'appliquer l'alinéa 2 de la loi qui nous autorise à avoir un troisième renvoi. Donc le juge nous l'a accordé sans dire que c'était ultime ou autre chose.
Maître Étienne John, avocat d'Ousmane Sonko, donne ainsi les détails de ce nouveau renvoi du procès en diffamation qui oppose le ministre Mam Mbaye Niang à son client Ousmane Sonko. D'après l'avocat, la demande de renvoi est justifiée par plusieurs raisons, parmi lesquelles le traitement subi par son client et un de ses conseils.
Ousmane Sonko était dans son véhicule entouré par les forces de l'ordre qui voulaient l'extraire de force. Le député Guy Marissagna a réussi à l'extirper des mains de la police et l'a mis dans un autre véhicule. C'est à ce moment qu'on a versé une substance inconnue dans cette voiture pour l'obliger à descendre. D'ailleurs, la tache est restée sur son boubou. C'est comme du piment rouge. D'ailleurs, le médecin a dit que ce n'est pas bon pour les yeux. Ousmane a d'ailleurs mieux résisté que Maître Cyril Clédorli, qui a carrément perdu ses moyens et qui a été évacué par ambulance.
Le ministre Mam Mbaye Niang, qui accuse Ousmane Sonko de diffamation, estime que ce dernier fait du dilatoire. Pour lui, les choses ne sont pas compliquées.
Je pense que c'est quelque chose de très simple, de très banal. Ça devrait être un procès banal. Une personne qui accuse un citoyen qui dit détenir un rapport. Mais on n'a pas besoin de 1500 avocats, on n'a pas besoin de renvoi. Moi, si il produit ce rapport-là, que ça soit un rapport de l'IGE, que ça soit un rapport de l'IGF, que ça soit un rapport de la Cour des comptes, que ça soit n'importe quel rapport, même de services de renseignement étrangers, si M. Sonko produit ce rapport-là, moi je me constitue comme détenu.
Pour la troisième fois, le procès pour diffamation opposant le ministre Mam Mbaye Niang à Ousmane Sonko a été renvoyé. La date du 30 mars 2023 est cette fois retenue par le juge, une date que les Sénégalais appréhendent déjà à cause des scènes de violence qui ont lieu dans la capitale à chaque fois que l'audience est retenue. Seydina Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se trouve depuis hier à Niamey au Niger. Monsieur Blinken est le premier chef de la diplomatie américaine à se rendre dans l'ancienne colonie française, base militaire clé pour les forces occidentales dans leur lutte contre les djihadistes au Sahel. L'administration Biden souhaite s'engager davantage pour y contrer les influences croissantes de la Chine et plus récemment de la Russie. Pour les enjeux et les perspectives de cette visite inédite de M. Blinken, Jean-Roger Bion a joint à Niamey le professeur Diallo Boubacar, coordonnateur du laboratoire sahélien d'études et de recherche sur les conflits et la sécurité.
Oui, elle est d'actualité. La perception est liée à la position du Niger qui est à cheval entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. C'est aussi la trajectoire historique du Niger qui a toujours été un pays très lié à la France et aux États-Unis. L'OTAN a besoin quand même de ses alliés en Afrique de l'Ouest. Or, vous avez vu que certains pays africains sont en train de basculer derrière la Russie au regard de l'échec de l'interventionnisme occidental en Afrique dont le a été l'assassinat de Kadhafi et la dispersion des armes lourdes dans la région sahélienne qui a conduit à la déstabilisation du Sahel avec les hécatombes jamais connues dans la région.
Alors le Niger est plus connu pour être adossé à la France. Que viennent chercher les États-Unis dans cette affaire?
Mais je pense que depuis les indépendances nigérienne, le Niger a toujours été fortement lié aux États-Unis en dépit de son alliance à la France. Mais il faut observer que, par exemple, sous le régime de Tanja Mamadou, il y a eu une opposition très forte affichée qui faisait que le Niger cherchait à diversifier ses partenaires, en particulier, par exemple, dans la question de ses ressources naturelles. Alors cela a fait venir au Niger les Brésiliens, les Chinois, les Sud-Africains, les États-Unis étaient de toute façon déjà là. Mais cette dynamique a été cassée avec 10 ans de rêve catastrophique de Issou Mamadou qui a consacré un alignement irréfléchi et improductif derrière la France.
Alors quels seraient les bénéfices immédiats pour Washington et pour Niamey à la fois?
Je pense que chacun des pays a ses objectifs. Le Niger a ses objectifs de développement déclinés dans la politique générale du Premier ministre, mais aussi le programme de développement du président de la République. Et donc le Niger parlera certainement de ces questions, de ces attentes stratégiques, notamment aussi en termes de sécurité. Et pour ce qui est des États-Unis, je pense que le risque de voir que les Nigériens demandent le départ des troupes américaines du Niger peut-être justifierait ce déplacement, ce balai diplomatique d'ailleurs dans toute la région. Et donc les États-Unis viennent sans doute raffermir ces liens dans un contexte à haut risque. Donc voilà, chacun des pays défendra ses intérêts.
Diallo Boubacar, coordonnateur du laboratoire sahélien d'études et de recherche sur les conflits et la sécurité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portail.
À l'instar d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire organise elle aussi une opération spéciale de rapatriement de ses ressortissants fuyant les violences en Tunisie après les propos du président tunisien contre l'immigration non contrôlée d'Africains subsahariens dans son pays. La cinquième vague d'Ivoiriens est arrivée mardi dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un reportage de notre correspondante sur place, Delphine Boïse.
La cinquième et dernière vague de 145 Ivoiriens a été accueillie par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora. L'ambassadeur Léon Adam Kakou fait le point de ces cinq vagues de migrants ivoiriens qui ont regagné leur pays.
Avec ce dernier vol, se termine l'opération de rapatriement de nos compatriotes qui a été initiée à la demande du chef de l'État, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Nous avons au total, avec les 5 rotations, 725 Ivoiriens. Il semble qu'il y ait encore entre 2000-2600 qui se sont signalés à l'ambassade et certainement qu'il va falloir penser à les faire revenir aussi.
Ces Ivoiriens, parmi les migrants subsahariens, étaient en détresse en Tunisie après les propos du président tunisien.
J'ai travaillé comme un ouvrier là-bas, mais après le discours du président tunisien, nous n'étions plus en sécurité là-bas. Nous étions agressés de partout. C'était difficile.
Moi, j'ai tout laissé, tout abandonné là-bas.
À l'accueil de la quatrième vague le samedi 11 mars 2023, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Mme Kandia Kamisoko Kamara. Elle était composée de 150 adultes, dont 7 enfants. La ministre n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils.
Vous êtes rentrés chez vous, mais ayez un projet en tête. Vous vous organisez. Et là, vous allez au ministère de la Jeunesse, il y a des gens même pour vous aider. Comment monter un dossier, comment vous encadrer le fonds FACSI.
Le souhait de cette jeune dame, comme bon nombre de ses compatriotes rapatriés, c'est leur réinsertion dans le tissu économique du pays.
Ici c'est un salon de coiffure, ici c'est un magasin, même si c'est élevage, tout ça là, je suis prêt à faire.
L'État de Côte d'Ivoire avait déjà pris des dispositions. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres du 1er mars dernier.
L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'un milliard de francs CFA.
Et c'est le ministère de la Promotion de la Jeunesse qui pilote l'opération. Herman Nikoué, administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeune, à la télévision nationale, dévoile les phases du processus de réinsertion.
L'accueil sur le site pour pouvoir donc les profiler. Un entretien plus poussé qui est fait dans nos agences à Abidjan ou à l'intérieur du pays. La prise en charge, ceux qui veulent faire des formations, ceux qui veulent être accompagnés pour des projets, ceux qui veulent faire des stages, et la mise en place des financements et puis le suivi à court, moyen et long terme.
725 Ivoiriens ont jusqu'ici regagné leur pays par vagues successives en provenance de la Tunisie et un peu plus de 2000 autres attendent d'être rapatriés. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Des propriétaires de petites entreprises passionnées se sont retrouvés mercredi pour la Small Business Expo, le salon commercial et l'événement de réseautage et de formation numéro 1 aux États-Unis pour les entreprises, notamment les PME et les PMI. L'événement qui s'est tenu au Whitfield Entertainment Group Studio dans le nord de Washington, D.C., a réuni des centaines de personnes soucieuses de renforcer leur réseau professionnel et donner un nouvel élan à leurs affaires. Reportage de Nanit Talani.
La SBE, Small Business Expo ou Exposition des petites entreprises, est l'événement le plus attendu de l'année par les acteurs économiques ici aux États-Unis. C'est non seulement le plus grand salon professionnel, mais aussi une journée de conférences, de formation et de réseautage interentreprises au profit des propriétaires des petites et moyennes entreprises et industries et les startups. La Nigériane Banky Bankole vit à Landover dans le Maryland où elle possède Alonos Food, une boutique qui vend des produits et des épices africains.
Je suis venue ici pour le réseautage, pour faire connaître mon entreprise parce que je veux être tout autre. Je veux dire être partout dans le monde. Je ne veux pas être limitée, c'est pourquoi je suis ici. J'ai rencontré beaucoup de gens, des professionnels de différentes compagnies et nous nous sommes connectés. Et j'ai obtenu beaucoup d'informations dont j'avais besoin pour mon entreprise.
La Small Business Expo proposait aussi un hall d'exposition de produits et services innovants. C'était également l'occasion pour les femmes et les hommes désireux de se lancer dans les affaires, d'établir de nouvelles relations professionnelles, de faire connaître leur entreprise ou encore apprendre et s'inspirer des autres. Stanley Agbontin, d'origine nigériane, est un artiste et un chef d'entreprise qui gère Sip & Paint d'ici.
Je suis venu à l'exposition pour rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres propriétaires d'entreprises et voir quelles sont les opportunités ici aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu voir aussi le réseau et voir ce que font les autres dans d'autres entreprises.
Les participants ont assisté à des ateliers critiques de développement d'entreprises animés par des experts et des innovateurs. Les conférences ont couvert une variété de sujets sur l'art de faire les affaires autrement. C'est ce qui a retenu l'attention de Diana Trotter, consultante en commerce de détail et propriétaire d'une société appelée Vanu.
Ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, ce sont les ateliers. J'ai trouvé les ateliers très bien. Ce qu'il faut, c'est que des experts viennent vous dire ce que vous devez faire différemment dans votre entreprise.
La Small Business Expo se déroule chaque année à différentes dates dans les principales villes américaines, dont Washington DC, et dans les futurs hommes et femmes d'affaires à développer et élargir leur réseau professionnel, établir de nouvelles relations commerciales et booster leurs affaires. Legacy Sevier est une poète et artiste de la parole dans la zone DC, Maryland, Virginie.
Vous pouvez apprendre beaucoup quand vous venez ici, beaucoup d'ateliers, beaucoup d'informations. Vous pouvez constituer votre propre entreprise. Très bénéfique.
La prochaine exposition des PME et PMI aura lieu le 29 mars à Philadelphie, en Pennsylvanie, avant de se transporter à Boston, dans le Massachusetts, le 13 avril, Chicago, dans l'Illinois, le 26 avril, et d'autres villes.
Voilà. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook.